Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission de la promo 2023-2024 de Tech News, le média lycéen du lycée Émile Pétavin. Pour commencer cette émission, nous allons vous présenter notre première rubrique sur la santé. Tout d'abord, Sohan va vous expliquer quels sont les différents moyens de contraception masculine.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez tabou pour beaucoup d'entre vous, la contraception masculine. La contraception se trouve être un sujet de dispute chez certains couples. Est-ce que cela doit être l'homme qui doit mettre le préservatif ou la femme doit prendre la pilule ou elle-même mettre le préservatif? Toutes ces questions se posent souvent chez les couples avant de passer à l'acte. Pourtant, la contraception est très importante. Non seulement elle vous empêche d'avoir des enfants si vous n'en voulez pas, et même elle vous empêche d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. D'autant plus, les solutions sont nombreuses pour se protéger. En effet, il n'y a pas que le préservatif. Il existe un autre moyen, moins connu, la vasectomie. Une méthode radicale et définitive, la vasectomie est une méthode de stérilisation masculine. C'est une opération mineure qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Elle est pratiquée sous anesthésie locale et dure environ 10 minutes. D'autre part, moins invasive et temporaire, une pilule de contraception masculine est en cours de développement. Donc dans quelques années, nous aurons des pilules comme pour les femmes, mais pour les hommes. Il existe aussi une sorte de slip chauffant qui est en fait un caleçon doté de compression thermique qui chauffe les testicules au-delà de 37 degrés, rendant les spermatozoïdes infertiles. Dans le même principe, un anneau chauffant. Le pénis et le scrotum sont passés dans un anneau en silicone qui doit être porté 15 heures par jour. Bref, il en existe plein d'autres, mais le sujet reste tabou et c'est souvent la femme qui se plie à la contraception. Alors messieurs, prêts à changer vos habitudes ?
Merci à toi, désormais je vais vous démontrer l'importance de la vaccination du HPV humain chez l'homme et nous nous retrouverons après une courte pause musicale. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet de santé très important et souvent négligé, la vaccination contre le papillomavirus chez l'homme. Souvent associé aux femmes, le papillomavirus est une infection virale courante mais méconnue qui affecte également les hommes. Dans cette chronique, nous allons explorer pourquoi il est essentiel que les hommes se fassent vacciner contre le papillomavirus et quelles sont les implications de cette vaccination pour leur santé et celle de leur entourage. Le papillomavirus humain, ou HPV, est l'une des infections sexuellement transmissibles les plus répandues dans le monde. Il existe de nombreux types de HPV, dont certains sont responsables de verrues génitales, et d'autres peuvent provoquer des cancers, notamment le cancer du col de l'utérus, de l'anus, de la bouche et de la gorge. Si l'association avec les cancers du col de l'utérus chez les femmes est bien connue, l'impact du HPV sur la santé des hommes est souvent sous-estimé. Les hommes peuvent également être porteurs du HPV, et bien que la majorité d'entre eux n'éprouvent aucun symptôme, ils peuvent transmettre le virus à leur partenaire sexuel. Cela signifie que les hommes jouent un rôle essentiel dans la propagation du HPV. De plus, le HPV chez l'homme peut entraîner des verrues génitales, des cancers de l'anus, de la bouche et de la gorge, et même du pénis. Les conséquences de ces cancers sont graves, mais la bonne nouvelle est qu'ils sont en grande partie évitables grâce à la vaccination. Depuis de nombreuses années, la vaccination contre le HPV était principalement recommandée pour les femmes. Cependant, de plus en plus de pays reconnaissent désormais l'importance de la vaccination chez les hommes. Les vaccins disponibles sont sûrs et efficaces pour prévenir l'infection par les types de HPV les plus courants, les plus dangereux. En se faisant vacciner, les hommes peuvent non seulement se protéger eux-mêmes contre le cancer, mais aussi contribuer à briser la chaîne de transmission du HPV au sein de la population. La vaccination contre le papillomavirus n'est plus réservée aux femmes. Les hommes ont tout autant à gagner en se faisant vacciner, non seulement en se protégeant contre les cancers liés au HPV, mais aussi en contribuant à la santé de leurs partenaires. Il est essentiel que les hommes prennent conscience de l'importance de cette vaccination et qu'ils en discutent avec leurs professionnels de santé. Ensemble, hommes et femmes peuvent travailler à éliminer les conséquences graves du HPV et à prévenir les cancers liés à ce virus. N'oubliez pas, la vaccination est un acte de prévention qui peut sauver des vies. Merci de nous avoir écoutés pour cette chronique. Prenez soin de votre santé et n'oubliez pas de vous faire vacciner.
I got done, honey. It's you. I don't care, honey. Mad and head of the boy, what do you say?
Tell me who is he?
living in my system, baby. Oh my God, yes, I'm yes on that. I was really hoping that he will come through. Oh my God, tell my funny, yeah, asking all the time about what I should do. Now I can never let him go. 나만 생각나 24 난 행운 아야 정말로 I know I know. 너를 기적같이는 나는 네 없어서 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know I know. I'm just living in my system, baby, 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 baby. I'm going crazy, right, baby, baby. I'm going crazy, right, baby. 너와 my heart is going, it's going now. 너랑만 있으면 내 소울 깨어져 갈증 메워진 더 메워진 can't sleep at night.
Vous êtes toujours sur 48FM en train d'écouter la première émission du média lycéen Tech News. Pour cette deuxième partie d'émission, nous allons aborder la rubrique sur les voyages et les projets scolaires. Tout d'abord, je laisse place à Eva qui va nous parler du voyage à Perpignan.
Visa pour l'image est le festival international du photojournalisme. Il se déroule depuis 35 ans dans la ville de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. La 35e édition de Visa pour l'image s'est déroulée du 2 au 17 septembre pour le public, et du 18 au 29 septembre pour les scolaires. Les élèves volontaires ont alors pu se rendre à Perpignan les 18 et 19 septembre afin d'aller découvrir les expositions et ont même pu rencontrer Natalia Saprunova. Natalia Saprunova est une photojournaliste russe installée en France depuis 2008. Elle a fait des études en communication, management et e-commerce. En 2016, elle intègre une école de photographie où elle donne des cours. L'exposition de Natalia Saprunova que l'on a pu découvrir à Visa pour l'image s'appelle Evenk, les gardiens des richesses yakoutes. Cette exposition porte sur le peuple des Evenks vivant en Yakoutie, au nord de la Russie. Les Evenks sont une tribu vivant exclusivement de l'exploitation de leurs troupeaux de rennes et de leurs terres. Ce sont aussi de grands chasseurs et surtout des personnes proches de la nature. Nous avons demandé à Natalia Saprunova quelles étaient ses photos favorites. Elle nous a répondu qu'elle aimait beaucoup la photo du chaman, la famille de chasseurs et surtout la photo chez Galina, car c'est une personne à laquelle elle est très attachée. Nous lui avons également demandé quels étaient les plus gros risques du métier. Pour elle, les plus gros risques du métier sont souvent dus aux contraintes naturelles, comme la température ou encore le terrain. À la fin de l'interview, nous lui avons également demandé ce qui lui plaisait dans le fait de faire des interviews, de rencontrer des gens. Elle nous a dit qu'elle aimait le contact avec les gens, partager des choses, leur montrer des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Elle aime aussi beaucoup le contact avec les scolaires, car ce n'est pas le même public. Ils ne perçoivent pas forcément les mêmes choses de la même façon, et voir comment ils interprètent ces photos, c'est quelque chose qu'elle aime. Pour ce qui est de mon avis personnel, j'aime moi aussi beaucoup la photo chez Galina, car je trouve qu'elle a vraiment un côté accueillant. C'est un simple moment de partage entre une grand-mère et sa petite-fille, mais la photo a été prise, je trouve, au meilleur moment. Les deux ont l'air tellement heureuses et souriantes que c'est un sourire communicatif. Cette photo montre vraiment que les moments les plus simples sont les meilleurs. Je pense que ce qui m'a le plus marqué dans cette rencontre, ce sont les petites choses qu'on ne soupçonne pas forcément, mais qui font toute la différence. Par exemple, tout le travail qu'il y a derrière le métier de photojournaliste, car ce n'est pas juste prendre des photos et les imprimer. Il faut aussi les trier, se poser les bonnes questions sur la photo, savoir si ce que l'on veut montrer est visible ou encore la question de la légitimité. Grâce à l'exposition de Natalia Saprunova, mais aussi grâce aux autres expositions présentes à Visa pour l'image, j'ai pu découvrir beaucoup d'aspects culturels différents, beaucoup de tribus ainsi que beaucoup de sujets plus ou moins sensibles. Grâce aux différents sujets, j'ai pu découvrir et prendre conscience de beaucoup de choses, notamment sur l'aspect écologique et sur l'aspect de la santé. Sur l'aspect écologique, j'ai pu remarquer beaucoup de photos ayant pour but de faire prendre conscience aux gens que chaque fait et geste aura forcément un impact quelque part dans le monde. Pour ce qui est de la santé, je dirais plutôt que les photos avaient un but préventif, dans le sens pour montrer aux gens les possibles problèmes de santé pouvant arriver selon les situations. Je pense que s'il y a une chose à retenir de ce séjour, c'est que peu importe la voie scolaire choisie par les élèves, chacun a su trouver au moins une photo qu'il a appréciée ou qu'il a marquée. Cela montre que la culture est accessible et surtout peut plaire à tout le monde, peu importe qui on est.
Merci Eve. On vous propose maintenant de passer de l'autre côté de la frontière avec le voyage des terminales à Ceuti. Du 14 au 21 octobre 2023, avec 5 camarades de terminale, nous sommes partis en échange scolaire avec des élèves du lycée Felipe de Borbone à Ceuti. Les jeunes Espagnols étaient déjà venus l'année scolaire dernière, au début du mois de juin. Alors concrètement, qu'est-ce que nous avons fait sur place ? Nous sommes arrivés à Murcie le 15 octobre vers le milieu de la journée après un long voyage nocturne. Nous avons commencé les visites que le lendemain, notre première destination étant le musée de la musique à Caravaca de la Cruz. Présente différents instruments traditionnels trouvés aux quatre coins du monde, comme un énorme tambour venant de Chine, des percussions venant d'Indonésie, d'Afrique et d'autres endroits encore. Nous avons ensuite visité le château de Caravaca. Cette visite nous a permis de découvrir la tradition étonnante du village. Une fois par an, les habitants se retrouvent en bas du château. Ils doivent courir le plus vite possible jusqu'en haut de la colline, attachés à des chevaux et ne pas tomber. À l'origine, les chevaux servaient à transporter le vin pour le faire bénir à la chapelle. Deuxième jour, nous sommes partis avec le groupe d'Espagnols à Cartagène pour visiter le théâtre antique qui pouvait néanmoins accueillir jusqu'à 7000 personnes. Nous avons aussi visité le musée de l'archéologie sous-marine. On peut retrouver dans ce musée des explications sur les techniques utilisées par les archéologues, leur matériel et leurs trouvailles. Enfin, nous sommes allés à la plage et certains, les plus courageux, se sont même baignés. Le mercredi, première et seule journée de cours avec les Espagnols. Il nous a montré que nous avons encore un peu de chemin à parcourir avant de pouvoir totalement comprendre l'enseignement en espagnol. Jeudi, pause relaxante au terme de Ceuti avant de repartir pour de longues heures de bus pour revenir en France et mettre un terme à ce voyage. Cet échange a été pédagogique dans ses aspects positifs comme un peu moins. On pensera notamment aux longues heures d'attente entre deux activités. Au moins, ce voyage nous a permis d'apprendre les coutumes de nos voisins les Espagnols, leur langue et surtout de créer des amitiés. Bref, Erasmus, c'est vraiment bien.
Merci Lilian, désormais place à la pause musicale. A tout de suite pour une chronique et un débat sur l'IA. Doit-on avoir peur d'un remplacement des humains par l'IA ?
Yeah. tous, chers auditeurs, et bienvenue dans cette chronique spéciale consacrée à l'intelligence artificielle. C'est Clovis
et Noah,
et aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce sujet passionnant qui façonne notre monde.
L'intelligence artificielle, souvent abrégée en IA, est l'une des avancées technologiques les plus révolutionnaires de notre époque. Mais qu'est-ce que c'est réellement et comment ça fonctionne ?
L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui cherche à créer des systèmes capables d'accomplir des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Cela comprend des activités telles que la résolution de problèmes complexes, la reconnaissance de motifs, la compréhension du langage naturel et même l'apprentissage à partir de l'expérience.
Un des aspects fondamentaux de l'IA est le machine learning, ou l'apprentissage automatique. C'est une approche qui permet aux machines d'apprendre des modèles à partir de données et de prendre des décisions basées sur ces modèles. En d'autres termes, au lieu de programmer explicitement une machine pour effectuer une tâche, nous lui donnons des données et des algorithmes qui lui permettent d'apprendre par elle-même à accomplir cette tâche.
Une autre composante clé de l'IA est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, qui sont des modèles informatiques inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux sont utilisés pour traiter des données complexes, comme la reconnaissance d'images ou de la parole, en utilisant des couches de calcul interconnectées.
Alors, comment l'IA est-elle utilisée dans notre vie quotidienne ? Vous seriez peut-être surpris de savoir à quel point elle est omniprésente. Les algorithmes d'IA alimentent les moteurs de recherche sur Internet, les recommandations de contenu sur les plateformes de streaming, et même la prédiction des tendances boursières.
Des assistants virtuels tels que Siri, Alexa et Google Assistant sont également des exemples d'IA qui comprennent le langage naturel et effectuent des tâches en réponse à des commandes vocales.
Dans le secteur médical, l'IA est utilisée pour analyser des images médicales, comme les radiographies et les scanners, afin d'aider les médecins à diagnostiquer plus rapidement et précisément certaines affections.
Cependant, l'intelligence artificielle ne vient pas sans son lot de défis. Les questions éthiques, telles que la confidentialité des données, la discrimination et la responsabilité, sont de plus en plus préoccupantes.
En outre, l'impact de l'IA sur l'emploi et la nécessité de former les travailleurs pour s'adapter à cette technologie évolutive suscitent également des inquiétudes.
Enfin, à quoi ressemble l'avenir de l'IA ? Les tendances émergentes, telles que l'IA quantique, l'IA éthique et l'IA dans les soins de santé, ouvrent des horizons passionnants.
L'intelligence artificielle continuera de jouer un rôle croissant dans notre vie et à façonner notre avenir de manière inattendue. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette technologie qui change notre monde.
C'est tout pour cette chronique sur l'intelligence artificielle. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et au fait, tout ce que nous venons de dire a été rédigé par ChatGPT, un exemple parmi d'autres de nombreuses intelligences artificielles disponibles sur le web.
Alors maintenant, place au débat.
Alors, merci d'abord à Noah et Clovis pour leur chronique, qui en effet lance un débat houleux et très actuel. Alors, première question que je vous poserai, est-ce que selon vous, l'IA aujourd'hui est plus un danger ou une opportunité, vous en tant qu'élève de lycée ?
Moi, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un sujet à double tranchant parce que d'un côté, on a un moyen de progression qu'on n'a jamais vu auparavant grâce aux nouvelles technologies. On va pouvoir faire des trucs qui peut-être dépassaient notre imagination. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être un frein, notamment à la créativité. Par exemple, je pense notamment aux arts créatifs, la création d'images, les illustrations, et même on voit des films, des morceaux qui sont créés par l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est bien de prendre le sujet avec les pincettes.
Effectivement, l'IA, ça peut beaucoup développer l'humanité. C'est comme la découverte du feu ou de l'écriture, ça peut nous propulser en avant. Mais en même temps, l'IA, quelque part, va juste faire plus rapidement ce que fait déjà l'humain. Or, l'humain apprend à l'IA ce qu'elle va devoir faire. Donc au final, c'est comme si on se permettait de créer des humains artificiels. C'est un Frankenstein numérique, si je puis dire. Et ça peut, c'est une épée à double tranchant, parce que soit cette technologie va nous permettre de progresser à des vitesses fulgurante, en notamment nous aidant beaucoup dans les technologies, car on peut en produire autant qu'on a de serveurs, soit beaucoup plus que d'humains qui travaillent en même temps. Mais en même temps, ça peut être très dangereux, car justement, elle nous remplace. Donc on a vu par exemple avec la grève des scénaristes à Hollywood, qui se plaignent car leur travail peut maintenant être fait par une IA avec simplement une petite question texte qui prend une minute à faire. Et ça peut être un danger car certes, beaucoup d'humains vont apprécier, mais beaucoup d'autres, et sûrement une majorité, ne vont pas aimer perdre leur travail à cause d'une simple intelligence artificielle qui va venir les remplacer et effacer leur travail.
Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Esteban, je pense que l'intelligence artificielle, c'est bien pour l'utiliser comme un outil, mais non pas pour l'utiliser et en abuser surtout.
Alors, à partir de ce que vous venez de dire, et notamment ce que vous avez mentionné à propos du remplacement de l'humain par l'intelligence artificielle dans diverses tâches, est-ce que ce remplacement total de l'humain par l'IA, il vous semble possible ? Est-ce que c'est une possibilité qui vous semble envisageable ? Et quelle forme ça pourrait prendre ? Est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans une forme de tromperie ? Par exemple, la chronique que Noah et Clovis nous proposent, est-ce que vous seriez content, vous, de trouver dans un journal quelque chose qui est entièrement rédigé par une intelligence artificielle ou est-ce que vous vous considériez trompé dans ce cas-là ?
Alors, pour mon avis personnel, ce serait que vraiment l'IA pourrait être utilisée, mais à toute petite dose, parce que pour moi, il y a le manque de confiance qui va s'instaurer dans les propos, parce que au bout d'un moment, à force de toujours avoir des choses créées par l'IA et non par des personnes, ça, pour moi, ça ne reflète pas vraiment ce que la personne pense et ce qu'elle ressent. Et donc, le manque de confiance et le manque de transmission de sentiments ne sera plus là. Et ça peut beaucoup jouer sur les façons d'être des gens.
Pour moi, l'IA, c'est un peu la façon de faciliter, parce que avant, quand on avait un problème, on se creusait la tête, on cherchait, alors que maintenant, si j'aime en demandant une IA, en même pas une minute, le problème est réglé, et on n'utilise plus notre cerveau, en fait, pour réfléchir.
Alors, pour la question du grand remplacement de l'IA, ça va pas se passer comme ça, parce que beaucoup disent, c'est la solution de facilité, on lui demande un truc, elle le fait. Mais si vous avez déjà été sur une IA et que vous avez déjà essayé, vous verrez que si vous lui demandez un truc en particulier, ce ne sera pas exactement ce que vous vouliez faire dans votre imagination, quel que soit le prompt que vous utilisez pour ça, ce ne sera pas à la perfection ce que vous essayez de faire. Et justement, c'est là que transmettre les sentiments qu'on veut dans une œuvre, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un livre ou une œuvre d'art, on ne peut pas parfaitement la refaire grâce à une IA, donc les meilleures œuvres, en quelque sorte, resteront toujours les œuvres humaines. Cependant, l'IA a une autre capacité, parce que l'IA elle-même est une substance, c'est un diamant brut. C'est-à-dire que l'IA, telle qu'elle, ne dépassera jamais l'humain, elle dépassera jamais quoi que ce soit. Car elle n'a pas de corps physique. Cependant, le développement de l'IA n'est pas le seul développement en cours chez les humains. Il y a également le développement de la robotique. Et ça, c'est allié à l'IA. Je ne sais pas si vous avez vu, mais assez récemment, l'un des robots les plus avancés de la planète a été connecté à GPT-4. Et il a donc servi dans un hôtel de robots de service toute la journée et il répondait quasiment parfaitement aux questions. Et c'est là que l'IA a obtenu un corps physique. Donc, par exemple, beaucoup disent « Oui, mais l'IA pourra jamais remplacer Cristiano Ronaldo au foot. » Sauf que bientôt, si les robots avancent assez, on aura des robots qui pourront refaire parfaitement les mouvements humains. Et on y connectera une IA qui permettra de choisir parfaitement les mouvements humains. Et ainsi, on aura l'équivalent d'un humain en IA. Il n'y aura toujours pas cette beauté, ces sentiments de jeu, mais l'IA pourra nous remplacer sur tous les domaines. Et ça, c'est ce qui est le plus terrifiant avec cette technologie, en fait.
Mais du coup, il y a un peu une contradiction, parce que tu dis que l'IA peut remplacer dans tous les domaines, mais tu dis que l'IA non plus, elle n'a pas de ressenti et de sentiments. Mais du coup, le ressenti et le sentiment, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important dans une personne. Donc ça, si elle ne peut pas le remplacer, elle ne peut pas remplacer complètement, du moins, quelqu'un d'humain.
Alors moi, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que d'un côté, on ne peut pas implémenter des sentiments à l'intelligence artificielle. Mais de l'autre côté, c'est vrai que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer beaucoup de choses. Par exemple, écrire des textes qui nous paraîtront vraiment super réalistes. Mais personnellement, ce que j'apprécie dans une œuvre, c'est, quelle que soit l'œuvre, c'est le génie, ou comment dire, d'essayer de comprendre ce que la personne qui a la faite a ressenti. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas faire ça. Et donc, c'est encore mieux que certaines choses restent faites par les humains.
Alors, comme vous le dites, effectivement, l'IA, ça ne va pas avoir tous ces sentiments. Mais souvent, par exemple, un sentiment, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas vécu quelque chose avant. Et ça, je vais en profiter pour rebondir sur un débat sur la sécurité des IA et l'éthique de ces technologies. Mais GPT 3, 4 et tout, ont souvent eu un problème d'accès à Internet. Donc, par exemple, si vous demandez des événements récents à ChatGPT, la plupart des versions vous diront qu'ils n'ont pas accès à une base de données assez récente pour vous y répondre. C'est parce que les créateurs de GPT 4 vont empêcher l'IA d'accéder à Internet à partir jusqu'à une certaine date. Donc, les événements récents, les IA ne le connaissent pas, car elles n'y ont pas accès. Et ça, justement, c'est la censure pour la sécurité des IA, donc pas avoir des données trop récentes et pas être trop puissantes. Et justement, elles peuvent donc pas savoir forcément toutes les informations, car si c'est pas référencé sur le web, ce n'est pas référencé pour l'IA. Elle ne peut pas savoir un truc qui est sur un livre, mais pas sur Internet. Et c'est là que, du coup, l'IA n'a pas forcément accès à, effectivement, des sentiments. Du coup, il faut s'imaginer que l'IA va nous créer des œuvres très réalistes, mais c'est comme si je lui demandais de recréer un monde, mais que ce monde était entièrement gris, que tout le monde avait la même émotion, le même visage, que tout était pareil. C'est un monde fade, c'est un monde qui donne pas forcément envie d'y vivre. Et c'est pour ça que si l'IA nous remplace, ce sera un monde complètement nul, ce sera complètement une dystopie à ce niveau-là.
Alors, je suis plutôt d'accord avec vous, mais les œuvres d'art que présentent les intelligences artificielles, comme par exemple DALL-E, qui est une intelligence artificielle spécialisée dans la conception d'images, elle peut concevoir ces images donc, grâce à une base de données, comme vous l'avez dit, mais cette base de données est constituée d'œuvres que des personnes ont faites. En fait, l'intelligence artificielle ne fait que synthétiser ces œuvres par des algorithmes pour pouvoir présenter justement une image qui puisse possiblement correspondre à ce qu'on lui a demandé de produire.
Alors depuis tout à l'heure, on parle d'œuvres d'art, on parle d'émotions, de sentiments. Là, on vient de parler de production d'images à partir de bases de données. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi est-ce que les intelligences artificielles peuvent modifier le rapport à la vérité ?
Par exemple, j'ai vu sur Internet, bon, il y en a de partout, des covers faits par une IA de musique. C'est un personnage, par exemple, de dessin animé qui va se mettre à chanter de musique à la place du chanteur originel. Mais on peut aussi s'en servir pour quand quelqu'un parle. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est falsifier le fait que quelqu'un ait dit quelque chose d'horrible ou alors de propos de haine en cachant sa voix derrière quelqu'un d'autre.
Justement, c'est le but des intelligences artificielles, c'est de créer des algorithmes qui justement trient les infos pour revenir sur le journalisme. C'est l'intelligence artificielle qui va chercher des sources sûres, car comme nous, quand nous allons sur Internet et que nous savons regarder sur quel site, une intelligence artificielle marche pareil, dans lequel elle prend les infos, vérifie ses sources, mais beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut faire, et les utilise ensuite dans sa base de données.
Qu'on a beaucoup vu d'images de, par exemple, grandes personnalités en train de faire des choses absurdes. Et ça a beaucoup tourné sur le net au début du développement de l'IA. Pourtant, tout cela était faux. Et en fait, les fake news sont déjà présentes sur le web. Là, les humains les font très bien eux-mêmes. Mais les IA peuvent s'en inspirer. Et les IA peuvent surtout en créer de nouvelles qui inspireront des humains, qui inspireront l'IA. Et ça fait une boucle sans fin. Donc au final, oui, l'IA va énormément répandre les fake news et ça va devenir un vrai problème pour vraiment avoir accès à la vérité parce qu'on ne peut plus avoir une certification que c'est bien la vérité et pas un contenu IA ou fake news inspiré de l'IA.
Alors pour conclure et ouvrir peut-être sur des perspectives d'avenir, la question a été posée du tri des sources fiables et des sources non fiables qui est fait dans ces intelligences artificielles. Maintenant, la question est qui est là derrière et vous le savez, ce sont des entreprises privées avec leurs objectifs de rentabilité, parfois aussi leurs biais, leurs projets politiques, économiques. Comment vous considérez ça? Quel encadrement possible de tout cela? Que pensez-vous du fait que voilà, des entreprises privées soient derrière ces intelligences artificielles et leur impriment leur vision du monde?
Moi, ce que vous avez dit, je pense que c'est déjà présent dans la vie actuelle sans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est 11 milliardaires qui possèdent 90% des médias en France. On pense notamment à Bolloré ou même Bernard Arnault. Donc, est-ce que les médias sont déjà influencés par des choix politiques, des personnalités politiques, même des personnalités importantes qui impriment leur idéologie à travers leurs médias? Par exemple, on sait que Éric Zemmour, c'était le principal candidat à la présidentielle interviewé sur CNews ou sur C8. Donc je me dis que la question, elle s'est déjà posée depuis pas mal d'années. Est-ce que c'est une nouveauté de la poser sur l'intelligence artificielle?
Effectivement, c'est l'affaire avec Éric Zemmour, effectivement, c'est juste une collaboration avec les médias, voire un pantin des médias, qui sait. Et on peut voir que les médias peuvent vite diffuser ça. Or, l'information avec l'IA, c'est une toute autre question, car c'est un humain qui la poste. Tant que c'est assez réaliste, on ne pourra pas y voir vraiment une différence. Il sera plus dur de différencier si on n'a pas les vraies sources. Or, avec l'IA, ça a été vu avec OpenAI, l'entreprise qui développe notamment ChatGPT. Dans toutes les créations de vos IA, ne croyez pas que ce sera totalement invisible, mais effectivement, il y a une sorte de filigrane, une sorte de code qui vous dit « Ah, ça, c'est une création de l'IA ». Après, il n'est pas sur tous les créateurs d'IA, mais il y est pour quand même mettre un terme. C'est notamment pour l'éducation. Ainsi, un texte, un devoir ne peut pas être entièrement rédigé à l'aide de l'intelligence artificielle, car c'est un outil d'aide avant tout en ce moment, et non pas un outil qui doit faire le travail à notre place. Ainsi, des logiciels permettent de savoir si c'est une IA ou pas. Et cette filigrane devrait rester là, mais surtout devrait avoir une sorte de certificat. Ainsi, quand on poste une info à IA, on en parlait tout à l'heure, mais les covers d'IA de musique par des personnes, des personnages de dessins animés ou autres, ça y est, mais je peux très bien dire « Oh tiens, Beyoncé fait un remix d'une chanson de Soprano, et il faudra aller vérifier. » Or, la plupart des personnes ne voudront pas aller vérifier, et donc beaucoup de monde y croiront. C'est pour ça qu'il faudrait mettre une sorte de filigrane obligatoire, voire qui sait, une loi imposant de mettre une filigrane aux créations par IA qui indique que ça, c'est du travail d'IA et non pas un vrai travail d'un vrai humain.
Eh bien, je pense que le point culminant du danger de l'intelligence artificielle, ce sera quand, si jamais, on arrive à lui donner une conscience, c'est-à-dire qu'elle pourra faire des choix par elle-même. Pour l'instant, on lui demande quelque chose, elle l'exécute. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, elle pourra elle-même se demander des choses et les exécuter? Et donc avoir un avis sur plus différents sujets?
Alors moi, je ne pense pas que les intelligences artificielles pourront avoir une conscience ou des sentiments, parce que je pense que cette fonctionnalité-là, c'est un peu genre propre à l'homme, donc ça m'étonnerait que quelque chose d'informatique se mette à aimer ou à avoir peur de quelconque chose. Mais bon, après, tout est possible, donc bon, on verra bien.
Effectivement, l'IA, c'est avant tout un outil. L'IA n'a pas de sentiment, mais si on regarde bien, si on prend une pelle, la pelle ne peut pas aller creuser toute seule, ça ne marche pas. C'est un homme qui va venir creuser avec sa pelle, mais il va avoir beaucoup de mal sans. L'IA va venir aider l'homme, mais l'IA ne peut pas demander à une autre IA de faire son travail. C'est là que ça s'arrête, c'est une fin de chaîne en sorte. Et donc l'IA, il faut vraiment s'en servir comme un outil au maximum et non pas comme un truc qui va nous remplacer. Car comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, les sentiments, c'est le propre de l'homme. Et là, on peut voir, l'IA ne peut pas rire, c'est le propre de l'homme. L'IA ne peut pas être triste, c'est pareil, c'est le propre de l'homme. Et là, on voit que l'IA, c'est un outil et ça doit s'arrêter là. Sinon, c'est qu'on sera allé beaucoup trop loin.
Après cette discussion très stimulante, nous passons à la rubrique sur la culture et les loisirs. Lilian, c'est à toi avec la politisation du sport.
L'année prochaine se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris 2024. Plusieurs athlètes profitent parfois de rencontres sportives pour faire passer des messages politiques. On pensera notamment à Novak Djokovic qui a signé un message politique sur une caméra en mai dernier lors du premier tour de Roland-Garros pour la paix au Kosovo. Ou plus récemment, le judokate turc Tamar Malka qui a refusé de serrer la main à son adversaire israélienne lors des championnats d'Europe de judo à Montpellier le 3 novembre. Doit-on s'attendre à d'autres marques de politisation du sport à l'occasion des Jeux Olympiques ? Le journal Le Monde définit la politisation du sport comme une prise de position politique des athlètes encouragée par des événements mondiaux et les évolutions sociales. On peut donc parler de politisation du sport lorsqu'un athlète prend la parole pour donner son avis sur certains sujets politiques ou envoyer un message de tolérance. Certaines personnalités politiques pensent que cette prise de parti des athlètes n'a pas lieu d'être. En effet, il serait mieux, selon ces personnes, de laisser les athlètes faire ce qu'ils savent faire, du sport, plutôt qu'ils ne prennent un engagement en dehors de leurs engagements sportifs. Et en même temps, certains hommes politiques qui ne veulent pas voir les athlètes politiser le sport s'en servent, eux, à dessein. On a également entendu beaucoup parler d'un autre terme, le sportwashing, notamment lors de la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022, mais aussi récemment avec le tirage au sort pour la Coupe du Monde de 2034 en Arabie Saoudite. Le sportwashing désigne le procédé par lequel une entreprise ou un pays utilise un événement sportif important pour améliorer sa réputation. En effet, il est bon pour un pays d'accueillir les Jeux, par exemple, car cela apporte tourisme, argent et notoriété internationale. Des associations écologistes ont soupçonné le Qatar de vouloir gommer le problème de pollution et d'exploitation du pétrole important dans ce pays, ainsi que l'exploitation de la main-d'œuvre. Des scandales de corruption touchant le Parlement européen ont également éclaté avec un vaste réseau d'influence découvert au sein de l'Union européenne. Certains sportifs mettent à profit leur notoriété pour influencer un grand nombre de personnes. Mais comment dissocier le citoyen de l'athlète ? Quand est-ce que l'athlète devient citoyen et peut donc se permettre de donner son avis sur des sujets sociétaux ou de politique internationale ? Bref, le sport, c'est bien d'en faire un peu tous les jours, mais il ne faut pas le mélanger avec les nouvelles de tous les jours, que ce soit du côté des sportifs ou des politiques.
Merci Lilian, désormais Esteban va nous parler des jeux indés.
Les jeux vidéo. Tout le monde, ou presque, a déjà dû jouer à l'un d'entre eux, que ce soit Snake sur un téléphone, Zelda sur Nintendo, F-Zero pour les plus anciens, tous sont des œuvres connues et renommées. Cependant, derrière chaque jeu se cache un studio, une équipe de personnes s'occupant de la réalisation du jeu. Pour Pokémon, il y a Game Freak, pour Call of Duty, c'est Infinity Ward, ainsi de suite. Mais certains jeux n'ont tout bonnement pas de studio, juste une personne ou un petit groupe de passionnés qui créent leur jeu. On appelle ces œuvres les jeux indépendants ou jeux indies. En premier, j'aimerais vous parler d'Undertale. Ce jeu très connu et développé par Toby Fox s'est rapidement imposé comme un classique, a été nommé comme meilleur jeu indies ou a encore été mieux noté que les meilleurs jeux au monde, rien que ça. On y incarne un humain tombé dans l'underground, le sous-sol du monde. Pour en sortir, on devra affronter des monstres plus ou moins puissants. Le plus du titre est que l'on peut épargner ses ennemis ou les tuer, modifiant le scénario selon vos choix avec trois routes distinctes. Une belle leçon de morale. Mais cependant, un autre point fort marque le jeu, ses musiques. Son créateur Toby Fox les a créées quasiment entièrement seul, et beaucoup sont devenus des grands chefs-d'œuvre de la musique du jeu vidéo. Autre titre mythique des jeux indépendants, c'est Five Nights at Freddy's, souvent abrégé en FNAF. Développé par Scott Cawthon, ce jeu d'horreur en point and click, un jeu où vous ne bougez pas, mais vous pouvez cliquer sur des objets pour effectuer des actions, est devenu un grand classique du genre. On y incarne un gardien de nuit dans une ancienne pizzeria, et on surveille des animatronics qui tentent de nous tuer. On doit y survivre 5 nuits, qui durent 8 minutes chacune, avec en bonus une 6ème nuit où les animatronics seront plus dangereux que jamais. Ce succès est surtout dû à son univers et son histoire très étendue, avec 9 jeux principaux, des romans et un film qui vient de sortir et qui bat déjà des records au box-office. Enfin, j'espère que vous aimez l'eau, car c'est la thématique du jeu Subnautica. Dans ce jeu, vous survivez au crash de votre vaisseau, l'Aurora, et vous atterrissez sur une planète entièrement recouverte d'eau. Vous y trouverez des créatures hostiles, vous pourrez construire une base ou suivre l'histoire, le tout avec un fond marin très développé. Une suite existe d'ailleurs, Subnautica Below Zero, toujours de l'eau mais avec de la glace en plus. De très bons jeux, je vous laisse les essayer. En conclusion, les jeux indépendants développent l'univers des jeux vidéo, ou coupant des grandes licences des jeux et en proposant des titres qui reflètent l'idée d'un passionné, et parfois ces jeux deviennent presque aussi connus et réputés que les titres des grands studios, la preuve avec Undertale et FNAF qui sont parmi les jeux les plus vendus du monde. Bon, j'aurais pu vous parler d'autres grandes œuvres du jeu indé, comme Stardew Valley, Hollow Knight, Fez ou Hades, mais on va en rester là. Si vous aimez découvrir ou redécouvrir les jeux indépendants, je vous invite à aller checker le compte de Bonne Étoile sur TikTok. Il explique bien mieux que moi et présente des pépites à chaque vidéo. Car oui, je n'ai parlé ici que des plus célèbres jeux indépendants, mais il y a pas mal de pépites et encore d'autres pépites. On se retrouve plus tard pour une nouvelle chronique sur Tech News. A plus.
Bonjour, c'est Jade, en première SCP. Moi, ce que j'aime, c'est la K-pop. La K-pop, c'est un courant musical originaire de la Corée du Sud. Elle regroupe plusieurs styles musicaux, comme le rap, l'électro, la danse, etc. Les premières musiques de la K-pop sont apparues vers les années 90. Plusieurs groupes sont très connus, comme les BTS, les Blackpink, les TXT, les ITZY, et bien d'autres. Je vais vous parler maintenant des nouveaux albums qui sont sortis ces derniers mois. Il y a le nouveau album d'Aespa qui vient juste de sortir il y a quelques jours. Cet album propose 4 versions différentes, dont un CD, un photobook de 72 pages avec des photos des 8 membres, un photocard aléatoire avec les 8 membres, et 6 nouvelles chansons. Mais mon préféré, c'est Jungkook, membre de BTS, qui est le premier artiste solo coréen à classer 3 chansons de son album Golden. Ces 3 chansons sont classées en même temps dans le top 10 du Daily Global de Spotify. Il s'est offert un record jamais réalisé pour un artiste solo coréen. Pour la semaine du 20 octobre, Seven de Jungkook est toujours placé première place du Daily Global de Spotify. Mais 2 autres chansons de Jungkook sont également dans le top 10. Comme 3D se retrouve à la 9ème place, alors que le featuring du membre BTS avec Kid Laroi et Central Cee, Too Much se classe à 10ème position. Voici la fin de cette chronique sur la K-pop. Je reviendrai la prochaine fois avec plein d'autres actualités. Je laisse la parole à Esteban qui va parler d'un pays voisin de la Corée, le Japon. Juste après, vous aurez la chance d'écouter Seven de Jungkook. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi.
Vous avez sans doute déjà entendu parler d'un pays situé sur une archipel du Pacifique Nord, un certain pays du Japon. Très popularisé ces derniers temps grâce aux animés et aux mangas, beaucoup se sont intéressés à ce pays. On vous invite donc à venir avec nous pour découvrir le pays du soleil levant, sans oublier notre dose d'anime qui va avec. Bon, déjà, avant d'être le pays que l'on connaît, le Japon était un empire. Cependant, sa capitale n'était pas Tokyo, anciennement Edo, comme aujourd'hui, mais Kyoto, d'où la ressemblance du nom. Kyoto abrite ainsi une quantité absurde de monuments, comme le Kinkajuji, ou le pavillon d'or, un temple tout en or, au bord d'un joli lac. Il y a aussi Fushimi Inari Taisha, un sanctuaire dédié à la déesse, un kami, Inari, et surtout connu pour son chemin aux 10 000 tori, ces grandes portes rouges typiques du Japon. Et enfin, le Kyoto Gosho, le palais impérial de l'empereur. Parlons des temples, mais il n'y en a pas qu'à Kyoto. En effet, la mythologie japonaise est omniprésente là-bas. Il y a par exemple les Kami, dieux et déesses, comme Amaterasu, déesse du soleil, Inazami, déesse de la mort, ou encore notre fameuse Inari, déesse des céréales, du riz plus particulièrement. Sans oublier les très célèbres yokai, ces créatures du folklore local, censées expliquer les petits malheurs du quotidien. Si le sujet vous intéresse, regardez les films de Miyazaki et plus largement de Ghibli, comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke et surtout Le voyage de Chihiro. Une autre culture un peu plus particulière au Japon, ce sont les trains. Là-bas, c'est le principal moyen de transport. À la fois rapide, économique, grâce au JRPass, mais surtout nous faisant redécouvrir ou découvrir les magnifiques paysages. Deux grands types de trains sont présents au pays du soleil levant. Les Shinkansen, les TGV japonais les plus rapides du monde, et les trains locaux. Ceux-ci permettent de se déplacer sur de courtes distances et sont souvent d'une beauté incroyable. Prenons comme exemple le SL Hitoyoshi, le plus vieux train japonais encore en circulation. Il a d'ailleurs inspiré l'arc du train de l'infini dans Demon Slayer. Il relie Kumamoto à Tosu, sur l'île de Kyushu. Je vous invite à aller voir Alex no Kuni sur YouTube et TikTok pour découvrir le monde fantastique des trains et les magnifiques paysages nippons. Quand on parlait du Japon sans parler de nourriture, ramen, sushi, takoyaki, maki, onigiri et bento, là-bas les spécialités ne manquent pas et sont délicieuses. Par exemple, savez-vous que les ramen étaient très différentes selon l'endroit où vous les mangez, et qu'il existe même un musée du ramen près de Tokyo, à Shin Yokohama. Mais il existe une chose tout aussi bien que la nourriture japonaise, la musique. Beaucoup ont pu s'arrêter au cliché des vieilles musiques traditionnelles, portant déjà très bien, d'autres aux openings d'animés, mais d'autres musiques sont très connues, parfois même à l'étranger. Par exemple, Lisa, qui a réalisé la BO du dernier Spider-Man, la très célèbre Hatsune Miku, une chanteuse virtuelle chantant avec un vocaloïde, ou moins connue, To You, avec l'excellent E-Training After All. Mais le groupe le plus connu du pays est sans conteste Yoasobi, ayant réalisé des musiques iconiques comme Monster, Yoru ni Kakeru ou encore Taboon. Cependant, leur son le plus iconique est assez récent puisqu'il s'agit d'Idol, l'opening d'Oshinoko. Sorti au printemps dernier, il a été le son numéro 1 du Global Billboard pendant quelques temps, défiant des titres mondiaux. Malgré tout, l'icône du pays reste le mont Fuji, plus haute montagne du pays, culminant à 3776 mètres de haut. Il est visible depuis presque tout le centre du pays. D'ailleurs, si vous aimez la nature et le mont Fuji, je ne peux que vous recommander l'anime Yoru Camp, disponible sur Crunchyroll. Enfin, parlons des Hanami, les festivals. Ces événements avec fêtes, attractions, feux d'artifice et stands sont l'un des incontournables du Japon, à faire absolument, surtout au printemps pour la floraison des sakuras. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique, sayonara.
Merci à vous deux, et moi je vous retrouve après la pause musicale.
Every minute, every second, you know, not every night, I'll be loving you. control. Tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, seven different sheets. Seven different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right. 7 days a week.
Bienvenue dans cette dernière partie d'émission. Nous allons aborder la rubrique sur la vie du lycée. Malo et Joseph ont interviewé Madame Perret. Je vous laisse écouter ça.
Quand j'étais au lycée, c'est de là que partaient les courses.
Fast and Furious. Fast and Furious. Fast and Furious.
Alors, été ou hiver?
Été pour les vacances à la plage, l'hiver pour le ski.
Foot ou rugby?
Foot, bien sûr.
Collège ou lycée?
J'aurais dit collège il y a quelques mois, je dis lycée aujourd'hui.
Paris ou Marseille?
Arsenal.
Voulez ou se téléporter?
Voulez.
Bâtiment Canada ou bâtiment Équateur?
Ça dépend des soirs, certainement. J'avouerai que le Canada est quand même plus calme.
Rock ou classique?
Classique.
Messi ou Ronaldo?
Messi.
Alors, monsieur Souchon ou madame Serrière?
Joker.
Colle ou travaux d'intérêt général?
Travaux d'intérêt général.
Le self ou le Burger King?
Non, self. Self, c'est plus équilibré quand même. Pas non plus. Hein.
L'électricité à 22h30 ou l'électricité toute la nuit?
À 22h30. Oh. Désolée.
Professeur ou surveillant?
J'ai été professeur, j'ai été surveillante. Trop dur de choisir, c'est pas le même métier.
Okay. Merci beaucoup.
Merci à vous les garçons.
Merci.
Merci à vous deux, merci Madame Perret. Pour terminer, nous allons écouter Hermine qui a un message à nous transmettre.
Bonjour, je voudrais vous annoncer la création d'un groupe de musique au lycée Peytavin. Il est ouvert à tous les élèves et personnels, qu'ils soient débutants ou pas. L'objectif est d'essayer de jouer ensemble et de s'amuser tout au long de l'année. Les répétitions auront lieu dans l'établissement, à une heure et un jour déterminés en fonction des disponibilités des musiciens. L'inscription se fait au CDI jusqu'au 1er décembre. Alors, si vous n'êtes pas musicien, tant pis, mais vous pouvez en parler à vos amis au lycée. Par contre, si vous jouez, prenez votre instrument et courez vous inscrire.
Merci Hermine, l'émission est désormais terminée. Merci de nous avoir suivis et on vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.
Toi, toi, そんな時には骨打ち
ちだけ君に来てほしいのさ。